Vous écoutez Lille Info sur Radio Campus comme chaque mercredi entre 16h et 16h30. Nous allons parler aujourd'hui de microscope électronique avec M. Loïc Brunet, qui est ingénieur d'études et responsable du plateau de microscopie électronique au Centre commun de mesure imagerie cellulaire à l'Université Lille 1. Bonjour Monsieur Brunet.
Bonjour.
Voilà, donc, évidemment, chacun sait ce que c'est qu'un microscope, peut-être moins un microscope électronique, pourquoi électronique? Et on va parler bien sûr de la place de ce microscope dans votre structure de recherche, structure d'imagerie, qui est située dans l'Université Lille. Donc, tout d'abord, qu'est-ce que le Centre commun de mesure imagerie cellulaire?
Alors, le centre est une structure qui a été créée en 1978 à l'Université Lille 1 et qui est prestatrice de services en imagerie pour la recherche biomédicale.
Donc, ce centre a été créé il y a, on va dire, plus de 30 ans, là, maintenant.
Oui, tout à fait.
D'accord. Donc, au départ, c'était quelque chose d'innovant, un centre comme ça, sur une université?
Alors, en fait, il y a eu plusieurs centres communs qui ont été créés sur l'Université Lille 1 avec des spécialités différentes qui pouvaient être la spectrométrie de masse, la spectrométrie infrarouge et la microscopie électronique dont les années 80 ont été vraiment le fief et l'apogée de la microscopie électronique en recherche biologique.
Donc là, on est en 2014, les technologies ont évolué. Il faut rester à la pointe, c'est quand même la base d'un lieu de recherche comme une université.
Tout à fait, et d'ailleurs, après 32 ans de bons et loyaux services, nous venons de remplacer notre principal microscope électronique par son grand frère, avec toutes les innovations technologiques qui sont arrivées en 30 ans d'évolution des matériels scientifiques.
Effectivement, ce matériel était attendu depuis un certain temps déjà, on va dire. Est-ce que, avant d'arriver, il était inscrit dans un projet qui était bien défini avec des objectifs par rapport justement à votre unité? Est-ce que le fait d'avoir choisi cet appareil plutôt qu'un autre est dû aussi à votre spécialisation?
Alors oui, c'est une machine qui est avant tout dédiée à la recherche biomédicale et d'un autre côté aussi à la spécificité du centre dans lequel je travaille, qui est prestataire de service. Il fallait une machine qui soit très polyvalente. Et bon, vu le niveau d'investissement que représente une machine comme celle-là et tout ce qui va autour en termes de laboratoire, de préparation d'échantillons, il fallait vraiment bien définir le besoin et la machine pour en sachant que, bon, je pense que cette machine-là aura une durée de vie de 20 à 25 ans au minimum.
Voilà, donc une machine polyvalente, mais spécialisée, dédiée, on va dire, à la biologie.
Alors, principalement à la biologie, tout en sachant que sur un microscope électronique, on peut faire des analyses et des observations de toutes sortes de matériaux. Et nous avons un partenariat étroit avec nos collègues de physique et de chimie.
Alors, bien sûr, ce matériel correspondait à des besoins de l'université, de la recherche universitaire, mais il pouvait aussi intéresser, c'est peut-être l'objet de partenariats, notamment avec la région, voire avec l'Europe, d'autres partenaires, même certains privés.
Absolument. D'ailleurs, notre structure a un statut qui est tel que nous sommes ouverts à tous les chercheurs, bien évidemment, du campus Lille 1, mais également à tous les chercheurs des établissements publics, mais également du privé, avec des conditions d'accès qui sont légèrement différentes. Et nous mettons à disposition à la fois nos installations, notre compétence et notre expérience au service de la recherche.
Alors évidemment, ce genre de matériel, ce n'est pas comme conduire une voiture. Il faut des gens bien formés qui sachent à la fois l'utiliser, voire l'entretenir. Et là, l'équipe se restreint au fur et à mesure que les compétences à mettre en œuvre sont importantes et donc des machines très sensibles, on peut dire.
Oui, en effet, la machine que nous venons d'acquérir est effectivement assez complexe. Autant sur la précédente machine, on avait la possibilité d'envisager de former un certain nombre de personnes qui pouvaient devenir autonomes dans le cadre de leurs travaux de recherche. Aujourd'hui, ce n'est pratiquement plus possible, tellement la machine est très technique et très polyvalente, ce qui multiplie d'autant plus la connaissance des différents systèmes qui équipent cette machine.
Donc vous êtes une des trois personnes indispensables à son fonctionnement ?
Bon, je pense que indispensable peut-être, personne n'est irremplaçable, mais en tout cas on s'investit avec mes collègues de physique et de chimie effectivement beaucoup sur cette machine qui évidemment nous ravit, hein. C'est une fierté pour nous d'avoir ce type de matériel.
Au-delà de vous ravir, ça vous prend beaucoup de temps, cette machine ?
Oui. Je pense qu'à chaque fois que je me mets aux commandes de la machine, je ne vois plus le temps passer et il m'arrive régulièrement de me dire « Oh, déjà !» Et bon, on peut facilement y passer la journée, d'autant plus qu'on ne l'a pas encore évoqué, mais on est dans le domaine de l'infiniment petit et dans l'infiniment petit, il y a beaucoup de choses à voir.
Et donc, le temps devient très relatif, c'est ça ?
Oui, absolument.
Donc, est-ce qu'il vous arrive de vous perdre dans vos investigations, dans vos explorations, ou bien est-ce que déjà vous voulez rester concentré sur un objet, voire un objectif ?
Alors, être perdu, j'ai envie de dire, géographiquement sur mon échantillon, ça arrive. Il faut imaginer que le microscope que nous avons a des capacités de grossissement assez importantes et je peux avoir l'équivalent finalement d'un stade de foot dans une petite fenêtre de 15 cm de diamètre et où je vais faire défiler le stade de foot sous la fenêtre et donc je peux arriver à perdre ce que j'avais repéré, mais heureusement les systèmes informatiques me permettent de mémoriser des coordonnées.
Bon, vous n'avez pas de pronostic sur qui va gagner ?
Non, le foot s'arrête à l'analogie.
Oui, alors en plus, les échantillons que vous mettez à observer, hein, en fait, ne sont plus vivants, c'est un peu le problème.
Absolument, c'est ce qui va nous différencier de nos collègues physiciens et chimistes, c'est qu'en biologie, on a deux contraintes, c'est que tout ce qu'on va observer à l'origine est vivant, et il n'est pas possible d'introduire un échantillon vivant dans le microscope, donc il va y avoir une étape à un moment donné que l'on appelle dans notre jargon de fixation chimique qui va en réalité consister à bloquer les réactions de dégradation de la matière vivante, biologique, en vue de l'observer dans un état le plus proche de l'état naturel. La deuxième contrainte, c'est que la matière vivante contient de l'eau. Et le microscope qui est sous vide ne permet pas d'entrer d'eau à l'intérieur. Donc effectivement, il va y avoir tout un travail de préparation particulier des échantillons spécifiquement biologiques pour pouvoir les observer.
Je veux dire que vous observez au départ des choses qui sont vivantes, mais que vous mettez mortes dans l'appareil.
Voilà, on est obligé de les tuer. Bon, je ne sais pas si le mot est bien choisi, mais en tout cas de les fixer chimiquement pour pouvoir les observer, pour mieux comprendre ce qui est vivant finalement.
Vous n'avez pas encore trouvé le moyen de les ressusciter ?
Non, j'y crois pas trop.
Pas trop. Donc au-delà de ça, on a bien compris vos contraintes et aussi les perspectives de cet outil qui est un outil assez unique dans la région.
Oui, cette machine, effectivement, j'ai même envie de dire, d'après son constructeur, est même unique en Europe, compte tenu non pas de sa taille ni de ses performances, mais compte tenu de son équipement. Et c'est une machine qui a pratiquement toutes les options actuellement disponibles sur le marché, et d'où la polyvalence que j'évoquais tout à l'heure, et qui nous permet d'être assez confiants sur les possibilités de cette machine en matière de recherche pour les 20 années à venir en région Nord-Pas-de-Calais.
Alors, beaucoup d'étudiants, de jeunes ont travaillé sur des microscopes, hein. C'est quoi la différence fondamentale entre un microscope de base et un microscope électronique ?
C'est une bonne question et je suis content que vous me la posiez. Ça va me permettre d'éclaircir un petit peu ce fameux jargon du microscope électronique. Et je vais faire une analogie avec les séries policières. Je pense que tout le monde connaît un certain nombre de séries comme Les Experts, NCIS et d'autres séries où on voit régulièrement des microscopes qui font 40-50 cm de haut et qui sont ce qu'on appelle des microscopes photoniques dans le jargon un peu des microscopistes. Alors pourquoi ? Parce que ces microscopes utilisent la lumière comme rayonnement pour faire des images. Et il se trouve que physiquement, la particule de lumière, c'est le photon, d'où l'appellation photonique. Donc je pense que vous me voyez venir. Le microscope électronique, en fait, le rayonnement est constitué d'électrons. Ça ne veut pas dire qu'il est truffé d'électronique, même si c'est vrai, mais que le rayonnement utilisé pour faire les images est fait d'électrons.
Alors ça peut devenir peut-être plus abstrait que le microscope photonique, parce que nous, en fait, on a des yeux, on voit avec des yeux, on voit des images, plutôt on est dans l'image photo que dans l'image électro.
Alors déjà, il y a une grosse différence dans l'imagerie par microscopie électronique et celle de l'imagerie photonique, c'est qu'il n'y a pas de couleur. déjà. C'est une première contrainte physique. Donc les images sont soit en niveau de gris, soit en niveau de vert d'ailleurs, parce que nos écrans sont des écrans fluorescents. Et après, effectivement, alors on est dans le domaine de l'infiniment petit. Donc si on n'a pas un certain nombre de connaissances en biologie qui permettent de finalement de caractériser ou de comprendre ce qu'on est en train de regarder, on est très vite perdu dès lors qu'on grossit des milliers, des dizaines de milliers, des centaines de milliers, voire des millions de fois.
Donc on va dire que c'est une image qui existe électroniquement, qui est transmise à votre rétine, voire même à des caméras qui peuvent filmer et enregistrer, mais entre deux, il y a une interface.
Tout à fait. Finalement, si je résume le fonctionnement du microscope électronique à sa plus simple expression, on a une source d'électrons qui va être très très fine, qui va venir au niveau de l'échantillon, chercher une information de la constitution de cet échantillon biologique ou autre. Et le reste du système va consister à grossir cette image qui est microscopique pour la rendre visible à l'œil ou à des caméras, comme vous l'avez dit.
Donc effectivement, une image, on va dire reconstituée, qui peut aussi se transmettre en trois dimensions.
Alors dans une certaine mesure, on a la possibilité, grâce à un des équipements qui est autour de ce microscope, de faire des images en trois dimensions, un peu à la manière d'un scanner en fait. Mais là, si ce n'est qu'on n'est pas à l'échelle d'un organisme, on est à l'échelle de quelques cellules ou d'une cellule, où on va pouvoir effectivement, avec des réglages particuliers, une séquence d'imagerie particulière et des traitements informatiques, reconstruire une image en trois dimensions.
Donc ce microscope électronique, il a quelle taille? Il se présente sous quelle forme?
C'est une grosse pièce. Il fait environ 2,40 m de haut, avec une console de 2,40 m de large. Et il s'apparente un peu à un périscope de sous-marin, avec une console, avec énormément de commandes tout autour de cette console pour piloter le microscope.
Il pèse lourd?
Oui, 2,4 tonnes.
Ah, quand même.
Ce qui fait d'ailleurs que nos installations sont en sous-sol, puisque à l'étage, les sols ne résisteraient pas au poids du microscope.
Et évidemment, il n'est pas déplaçable.
Il est difficilement déplaçable. Alors, je peux vous donner une indication, on pourrait y arriver, mais il faut savoir que entre le moment où le microscope est arrivé dans ses caisses et cartons et le moment où on a pu l'utiliser, il s'est écoulé 4 mois, qui correspondent aux mois de montage, de réglage et d'optimisation du fonctionnement du microscope. Alors, on pourrait, mais ça prendrait encore beaucoup, beaucoup de mois de le déplacer.
Voilà, donc le plus simple pour les gens qui en ont besoin, c'est de venir chez vous, quoi.
Oui, oui, ce sera difficile de déplacer le microscope, d'autant plus qu'il a des performances qui ne sont garanties qu'à l'endroit où il était monté.
Alors, qui est intéressé ou pourrait l'être, hein? D'ailleurs, est-ce que le fait que des gens le deviennent ou puissent le devenir, c'est quelque chose d'important en termes, pour vous peut-être, de marché, entre guillemets?
Alors, je raisonne pas. Alors, c'est vrai que j'ai pas un raisonnement commercial. C'est vrai que je raisonne plutôt en termes de service à la recherche, à la fois en termes de service public et évidemment de contribution à la recherche et à l'avancement de la recherche. Je pense que potentiellement tout le monde peut avoir besoin d'un microscope électronique à partir du moment où on fait de la recherche. Mmh. C'est quand même une machine qui est pas facilement accessible. Je vais être honnête, ça coûte assez cher de faire de la microscopie électronique. Ceci étant dit, le but pour nous n'est pas du tout de faire du bénéfice, c'est de maintenir en fonctionnement ces appareillages et tout ce qu'il y a autour. Voilà, après ça concerne tout le monde, je l'évoquais tout à l'heure, aussi bien dans des services publics qui n'ont rien à voir avec la biologie mais qui font la recherche aussi, dans les secteurs des matériaux par exemple, dans les secteurs de la chimie, également des groupes industriels qui peuvent avoir des problèmes industriels à résoudre et auxquels on peut parfois apporter des solutions.
Donc pour ceux qui veulent rêver un peu, sachez que ce microscope grossit environ 2, même presque 20 millions de fois.
Oui,
plus
absolument.
Que notre caméra de base.
Ah oui, c'est énorme, hein, 20 millions. Pour donner une indication, en fait, à ce grossissement-là, alors on voit pas encore les atomes, mais on devine les plans atomiques. C'est-à-dire qu'on ne sait pas différencier deux atomes l'un par rapport à l'autre, mais le plan constitué par les atomes alignés les uns côté des autres, là on les voit.
Effectivement. Donc ce matériel est bien sûr précieux, il est l'objet d'un cahier des charges, d'un projet régional, puisqu'il
oui,
fait partie des grands équipements.
Absolument. Absolument.
Donc il est soutenu à la fois financièrement, mais je crois que lors de l'inauguration, certaines personnes ont marqué par leur présence leur intérêt et l'attachement de leur réseau ou de leur territoire aussi.
Tout à fait. Alors effectivement, ce microscope a pu être financé par un ensemble de financements, que les investissements d'avenir, qu'on appelle aussi le grand emprunt, évidemment, auquel la région a largement contribué, également l'Europe. Et de ce fait-là, le jour de l'inauguration, il y a quelques mois, il y avait un certain nombre de personnalités officielles, locales et régionales, qui sont venues finalement honorer cet instrument scientifique d'envergure. Bon, je peux citer évidemment le président de l'Université Lille, bien évidemment, mais le président de région, Daniel Percheron, le député européen Gilles Pargneaux, les délégués régionaux INSERM et CNRS, et bien évidemment les constructeurs du microscope.
Au-delà du microscope, les gens qui étaient là ce jour-là, est-ce qu'ils ont pu voir quelque chose qu'ils n'auraient jamais vu avant ?
Alors, indirectement, oui, parce que nous avions convié un certain nombre de spécialistes de microscopie nationaux et de renommée internationale qui sont venus faire des conférences pour expliquer ce qu'on pouvait faire, d'une part avec la microscopie électronique, mais en particulier avec notre machine.
Et les images qu'on peut prendre avec des caméras qui sont greffées dessus, c'est bien ça ?
Oui, alors il y a trois possibilités finalement de visualiser les images. On peut les visualiser en direct sur un écran phosphorescent. Alors pour faire un tout petit peu de technique, les électrons dont je parlais tout à l'heure, lorsqu'ils ont traversé l'échantillon, au milieu de la colonne à peu près, vont venir impacter un écran fluorescent qui est donc constitué d'une poudre et on a l'image en direct. Mais là, il n'y a pas la possibilité de conserver l'image. La deuxième possibilité, c'est d'utiliser des films photos. Ça se fait de moins en moins parce que c'est assez compliqué à utiliser, ça coûte assez cher. Et évidemment, derrière, on a l'avantage du numérique. On a des caméras très spécifiques qui sont greffées à différents endroits du microscope. On a deux caméras et deux détecteurs d'électrons qui permettent non seulement de visualiser en direct les images sur des ordinateurs, mais surtout de les sauvegarder.
Une question qui est certainement stupide, mais les images qui en sortent, est-ce que certaines peuvent être, entre guillemets, belles, voire est-ce que certaines peuvent vous procurer, à vous, chercheurs, une émotion ?
Alors, je pense qu'il n'y a jamais de question stupide, mais surtout, je vais vous avouer que j'ai un petit rêve qui est un jour, et je pense que j'espère le réaliser avec mes amis de l'espace culture, c'est de faire une exposition d'images scientifiques dédiées à la recherche, mais qui ont évidemment une nature artistique. Et il m'est effectivement arrivé à certains moments dans des observations à finalité purement scientifique de regarder des choses qui étaient très belles artistiquement.
Est-ce qu'on peut aussi imaginer que des photographes soient conviés à voir, voire à détourner les images qu'ils pourraient être pour eux possible, auxquels ils pourraient accéder, par exemple?
Ça a déjà été fait, et j'ai même connaissance d'un photographe qui a acheté un microscope électronique et qui publie régulièrement des photos artistiques faites avec son microscope électronique. Je crois que c'est aux États-Unis, mais voilà, ça s'est réalisé.
Alors, vous parlez des États-Unis, effectivement, la recherche n'est pas isolé dans le Nord-Pas-de-Calais. Vous êtes en lien avec des laboratoires, je pense, du monde entier. Comment ça se passe par rapport à des échanges professionnels de personnes spécialisées dans la lecture, dans le visionnement microscopique, au travers le monde? Est-ce qu'il y a des échanges qui sont faits et sur quoi vous pouvez éventuellement questionner d'autres chercheurs?
Alors, je dirais qu'à l'échelle mondiale, c'est plutôt sur les thématiques de recherche profonde qui utilisent la microscopie comme outil que se font les échanges. Après, les échanges sur le niveau microscopique, je dirais, se font plutôt au niveau national, voire européen, en ce qui me concerne, où effectivement, il y a toute une communauté de microscopistes qui n'est jamais avare de conseils et d'aide aux collègues. Et effectivement, que ce soit à la fois pour vraiment la recherche à proprement parler que l'exploitation des machines, nous avons bien évidemment des interactions très fortes.
Est-ce qu'on pourrait avoir une idée, celle qu'on peut dévoiler, de recherches auxquelles vous contribuez actuellement?
Alors, il y a différents sujets. Bon, je pense que tout le monde s'en doute un peu. Le principal sujet de recherche, c'est le cancer. ou j'ai même envie de dire les cancers, puisqu'il n'en existe pas qu'un. Et nous avons notamment 4 études qui portent sur le cancer du sein, cancer de la prostate, le cancer de la peau, et j'ai oublié la 4e, ça va me revenir, le cancer du pancréas. Et, mais alors, étant prestataire de service, la structure est effectivement tournée vers toutes les thématiques de recherche potentielle pour ceux qui veulent se tourner vers nous parce qu'ils ont besoin de notre outil. C'est très varié, mais effectivement, le cancer est un des principaux sujets de recherche.
Est-ce que des fondations comme l'ARC ou des choses comme ça peuvent vous aider ou bien finalement pas forcément?
Alors, il est bien évident que toutes les structures qui financent la recherche vont financer les laboratoires qui vont venir nous voir pour effectuer des investigations avec notre microscope. Et effectivement, vous avez cité l'ARC, il y a la Ligue, il y a le GFLUC, qui sont bien évidemment des structures qui financent la recherche contre le cancer.
Donc ces équipements sont porteurs d'avenir, hein. La recherche, surtout dans ce domaine-là, c'est quelque chose que les gens, évidemment, ont à l'esprit. Il faut que le cancer se résolve dans sa phase de soins, sinon en amont d'ailleurs, en prévention, hein. Comment vous pouvez justement permettre aux laboratoires, aux extérieurs, voire aux laboratoires médicaux d'aller plus vite, parce que beaucoup de gens qui sont malades disent, bah alors, qu'est-ce qu'ils font, quoi? Le cancer, il est encore un vrai problème depuis 30 ans, 40 ans qu'on essaie de le soigner. On n'a pas de pilule miracle. Alors, comment vous pouvez accélérer le mouvement, vous, à votre niveau, donc, de cet équipement?
Je suis pas certain que ce soit notre équipement qui puisse permettre d'accélérer les choses. C'est, je pense, et bien évidemment, vous l'avez évoqué, les financements et le nombre d'équipes qui travaillent sur le cancer. Et forcément, alors, et les cancers, hein, comme on l'a dit, c'est quelque chose d'assez compliqué. Les mécanismes de cancérisation sont très compliqués. Et la microscopie électronique est un des outils parmi tant d'autres qui permettent d'avancer. Moi, personnellement, je pense que ce n'est que le nombre d'équipes qui travaillent sur le cancer et évidemment les financements qui sont associés qui peuvent faire avancer les choses plus vite.
Donc vous êtes biologiste?
Je suis physicien.
Physicien, oui. Et vous travaillez en relation avec des biologistes?
Alors dans notre équipe, nous sommes 4. Nous avons un chargé de recherche INSERM, qui est directement en relation avec la recherche médicale. Et nous sommes 3 ingénieurs avec un biologiste, une biologiste même, une chimiste, et je suis le physicien de l'équipe.
D'accord. Donc forcément, vous travaillez aussi avec l'ILDE, qui travaille sur la santé aussi et la recherche?
Bien sûr. Nous avons des collègues à l'ILDE, à l'Institut Pasteur également, d'autant plus que les structures d'imagerie publique dédiées à la recherche sont fédérées, en termes de microscopie notamment, au niveau lillois.
Donc j'allais dire, maintenant que vous avez l'équipement dont vous rêviez, qu'est-ce qu'on peut encore vous souhaiter ?
De parfaire ma formation sur cette machine, parce que je vous cache pas que ça fait des mois et des mois que je travaille avec, j'ai suivi de nombreuses formations, et mon principal souhait en tant qu'ingénieur d'études est d'optimiser le fonctionnement de cette machine toujours et encore.
Ben, je pense que c'est ce que nous souhaitons, en tout cas Loïc Brunet. Je rappelle que vous êtes ingénieur d'études, responsable du plateau de microscopie électronique, que ça se passe au Centre commun de mesure imagerie cellulaire à l'Université Lille-1. Très bonne journée.
Je vous remercie et je remercie vos auditeurs.